Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de 4 personnes du Diwa, à commencer par monsieur Jean-Pierre Rouy. Bonjour.
Bonjour, je suis vice-président à la communauté des communes du Diwa et je suis particulièrement en charge du volet tourisme. Et du coup, je suis président de l'OT du Diwa.
Ensuite, nous avons madame Guéraud. Bonjour.
Bonjour.
Alors, madame Guéraud, vous êtes au sein de l'Office de tourisme,
oui,
même.
Je suis la directrice de l'Office de tourisme du pays d'Iwa.
Ensuite, Olivier Royer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur donc de l'espace social et culturel du Diwa.
Oui, c'est ça.
Et madame Sylvie Girard.
Bonjour.
Adjointe à la municipalité de Die,
oui,
pour la culture.
Alors, culture au pluriel, patrimoine, éducation populaire, j'y tiens.
Et donc, je vous ai invités tous pour nous parler un peu de ce que vit le Diwa actuellement, avec ses contraintes sanitaires et aussi peut-être un abaissement important de toute activité, surtout culturelle et touristique. Et donc, cette émission permettrait d'établir un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui et peut-être aussi de réfléchir à l'avenir, comment vivre avec cet état de fait dont on ne connaît pas encore la fin, et qui permettrait peut-être par vous de conjuguer les compétences de manière à recréer une nouvelle manière de vivre la culture et le tourisme. Alors, à commencer par monsieur Rouy, quel est le bilan actuel depuis que le Covid a commencé il y a environ un an ?
Le bilan actuel, donc l'année 2020, on va parler de l'année 2020. Donc écoutez, pour tout vous dire, on s'en est quand même pas trop mal sorti. Il y a pire, je pense qu'il y a pire. Bon, les acteurs ont fait qu'on a eu du monde. Certes, au niveau taxe de séjour qu'on collecte sur notre territoire, on a perdu à peu près 25%. 25%, mais on s'aperçoit quand on va dans les chiffres que juillet, août, on a énormément eu de visiteurs. Voilà. Alors, les visiteurs, on vit un tournant dans le tourisme du Diwa parce que les visiteurs, ils sont curieux aujourd'hui. Ils sont curieux, ils posent beaucoup de questions. Quand ils mangent un bout d'agneau, ils disent « Tiens, il vient d'où ? Quelle ferme on... ?» Ah ben après, on dit tout de suite « C'est l'abattoir du Diwa ». D'accord ? Ça, on marque des points, mais on s'aperçoit que nos visiteurs, notre clientèle évolue. Et ce n'est plus la clientèle que papa et maman ont connue. Voilà. Alors, tout à l'heure, Nathalie parlera de l'OT, de la fréquentation. Mais moi, je m'aperçois qu'on a un tournant. Et ce qu'on a connu au niveau du tourisme, les autres, avant la pandémie... on aura un autre tourisme après la pandémie. Et ça, on a un virage à prendre et il ne faut pas qu'on se manque. Voilà. Je pense qu'il faut rester comme on est. On a un territoire qui est attractif. Enfin, comme on est, il ne faut pas vouloir changer de la nature. On a un territoire qui est attractif. Il faut jouer là-dessus. Il faut jouer avec nos acteurs que nous avons et surtout avec notre bien-être et l'accueil que les Diwa apportent au quotidien.
Je pose la même question alors pour Nathalie Guéraud, même si vous êtes à l'Office de tourisme, vous êtes au cœur même de ce qui se passe actuellement. Et qu'en est-il alors à vos yeux ?
Donc Jean-Pierre vient de le préciser, effectivement la saison 2020, si on prend la saison estivale donc de juin, ça a été bien fonctionné même jusqu'à octobre on va dire. A été plutôt positive. On a des retours des prestataires qui ont plutôt bien fonctionné. Juin a été compliqué pour certains, c'était la reprise. On n'avait pas tous les protocoles sanitaires, ils n'étaient pas tous sortis. Donc il y a eu pas mal d'adaptations et d'improvisations et s'adapter sur des choses qui n'étaient pas écrites. Donc ça a créé un petit peu de... pas de panique, mais de difficultés dans la mise en place. Après, nous, au niveau des chiffres de fréquentation de l'Office de tourisme, donc sur l'année, bien entendu, en nombre de visiteurs, on est en baisse. Par contre, en nombre de contacts au comptoir, c'est plutôt stable. Et en nombre de demandes, on a plus 16 demandes en plus. Et le téléphone a explosé. Nous, on a eu plus 5% de demandes téléphoniques. Donc, les gens ne venaient pas forcément physiquement à l'Office de tourisme et chercher l'information par téléphone, par mail, sur notre site internet. Voilà, de plus en plus, ils utilisent les outils aussi des réseaux sociaux, Facebook, etc. Ensuite, sur les vacances de Noël, les gens sont quand même un peu partis, on fait des réservations. Après, la problématique, c'est celle des stations de ski, notamment l'alpin qui est fermé. Par contre, le nordique fonctionne plutôt bien. Il y a les stations de la Drôme pourraient vous en parler mieux que moi, mais les chiffres de fréquentation sont plutôt en hausse. Et les gens se reportent aussi sur la pratique de la raquette, de la randonnée, en fait, des skis de randonnée. Donc, les acteurs accompagnateurs, eux, ont des demandes et fonctionnent plutôt bien. On a un peu moins de visibilité sur février, parce que je pense que sur les vacances de février, tout le monde est en attente aussi des positionnements gouvernementaux, reconfinés, pas reconfinés. Donc, ça, de ce fait-là, ça limite les réservations et les départs. Et ce qu'on a pu constater cet été et ce que nous ont redit les hébergeurs, c'est qu'on a eu vraiment de la réservation, mais de très, très, très dernière minute, en fait. C'est vrai. Depuis quelques années, il y avait des résas de dernière minute, mais là, c'est extrême dernière minute.
Olivier Royer, c'est l'espace social et culturel du Diwa qui regroupe énormément d'associations qui se sont elles-mêmes retrouvées plutôt interdites d'activité. Et comment vous avez pu gérer cet état ?
Ouais, c'est si on revient sur si on fait un rétro-planning, un retour sur la dernière année là, c'est quand même une année effectivement toute particulière, une grande difficulté. Qui est dû souvent à des annonces qui arrivaient, du jour pour le lendemain, des annonces qui se faisaient et qui continuent à se faire au niveau de la radio avec des annonces du président, des différents ministres, le premier en premier, qui sont quelquefois pas en accord avec les décrets qui sortent quelques jours après. Et nous, ça nous a mis vraiment en difficulté sur cette fin d'année parce qu'on attendait notamment sur le mois de décembre où on a entendu début décembre des annonces très, très anxiogènes de la part du Premier ministre. Et où on attendait avec impatience ces annonces-là. Donc, on a fait notre communication dans ce cadre-là en fin de semaine pour dire à nos animateurs, à notre public, qu'il ne serait pas possible de rouvrir avant décembre, avant les vacances, et que donc on donnait rendez-vous à tout le monde à partir du 20 janvier, ce qu'on avait entendu dans le discours du Premier ministre. Et puis les décrets qui sont arrivés le mardi étaient beaucoup plus cool, permettaient certaines activités, mais nous, les communications étaient parties, parce que les gens... nos pratiquants, nos adhérents nous pressaient à avoir des informations. Et donc, c'est venu, encore une fois, stresser mes équipes. Et c'est ça, la vraie difficulté, c'est de ne pas être serein. On est toujours fragile sur ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. On essaie de faire le maximum à se glisser dans les interstices des autorisations en respectant... De toute façon, toujours les considérations sanitaires. Et d'ailleurs, nous, c'est même notre vigie. À l'espace social, en fait, on s'est réunis avec mes collègues salariés, on s'est réunis avec les administrateurs et on s'est réunis là, sur le début du second confinement, pendant 3 jours pour discuter sur comment on gérerait la crise sur l'année qui venait. Et on a mis en avant, en fait, une notion qui aujourd'hui nous guide, qui est le bon sens sanitaire. Quel que soit, en fait, ce qu'on nous autorise ou ne nous autorise pas, si on ne nous autorise pas, de fait, on ne le fait pas. Mais même quand on a une certaine souplesse dans les autorisations, on réfléchit d'abord bon sens sanitaire. Il faut quand même se rappeler qu'en début d'année, je vais prendre un exemple, on développe, on a... plus d'une cinquantaine de créneaux d'ateliers. Enfin, ça monte même à 70 à certains moments. Et en début d'année, on avait par exemple notre activité Tango, qui était donc autorisée. Et le protocole sanitaire, qu'est-ce qu'il nous disait ? Il nous disait, attention, vos pratiquants doivent arriver masqués à la salle communautaire, qui nous est mise à disposition par la communauté de communes. Ils doivent arriver masqués et lorsque l'activité commence, ils ont le droit de se démasquer. Puis, par contre, dès que l'activité s'arrête, il faut surtout qu'ils remettent le masque parce que c'est dangereux. C'était pareil pour le futsal. On ne fait pas d'activité physique avec le masque. Mais où est le bon sens sanitaire à ce moment-là, quoi ? Enfin, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et donc, nous, on s'est dit, d'abord, ce qui compte, c'est le bien-être de nos pratiquants, des personnes qui animent nos ateliers, c'est qu'ils soient sereins dans leur pratique et qu'ils n'aient pas peur de la pratique. Donc, réfléchissons à ce bon sens-là et puis avançons au fur et à mesure de ce qui nous est, de ce qui nous est autorisé. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que on a fermé certaines activités au début du confinement. Celles qui sont autorisées, ce ne sont que celles qui sont autorisées, qui touchent les enfants, pas les adultes. On peut développer un certain nombre d'activités dans nos locaux parce qu'on en est responsable, mais on est tributaire des propriétaires des locaux ailleurs où on le fait. On a des municipalités qui nous prêtent des salles, que ce soit la mairie de Die avec le gymnase, la salle polyvalente, à Luc-en-Diwa, ailleurs dans le Diwa. Et donc, c'est sur là où on est responsable, on tient cette vigie du bon sens sanitaire. Et ailleurs, on est tributaire de l'ouverture ou pas et de la lecture qu'ont les textes des différentes personnes. Moi, je passe énormément de temps en ce moment à discuter avec la préfecture, la sous-préfecture, à discuter avec les mairies. Et en fait, on en est là à interpréter les textes pour savoir ce dont on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ça change de manière assez régulière et en fait, c'est épuisant. C'est épuisant et c'est ça qui est le plus problématique. C'est pas tant la chape de l'épidémie, mais le fait qu'on n'arrive pas à se projeter et que souvent, on passe du temps à organiser des choses qui sont annulées au dernier moment et en fait, ça épuise tout le monde, quoi.
Juste avant d'intervenir pour Madame Girard, à l'image de Hugo Frison qui nous disait par cette lettre qu'il a publiée il y a quelques semaines de pratiquer son activité tant bien que mal en prévision d'une diffusion de spectacle et malgré tout annulé au dernier moment parfois. Donc ils maintiennent toujours, comme dirait notre député, le cap. En quelque sorte. Madame Girard, donc, vous êtes donc aux cultures et au patrimoine, c'est ça ?
C'est bien cela, et à l'éducation populaire.
Voilà. Et donc, dès votre avènement l'été dernier, suite aux élections, vous êtes pris en charge, vous avez pris en charge aussi des animations culturelles avec les vendredis de Die dans les rues de la ville. C'était une expérience dont vous avez tiré quelles conclusions ?
Je ne vais pas être très originale, en fait. Ça a commencé effectivement en juillet avec la volonté conjointe du théâtre et de la ville de mener malgré tout, malgré le fait que l'été avait l'air de s'ouvrir un petit peu plus aux possibilités festives, on va appeler ça comme ça, et aussi par la volonté d'être présent assez vite. Ça a été une expérience très enrichissante parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, je rejoins M. Ruit, il y avait une population touristique qui avait évolué, qui était assez présente et de manière très intéressée sur tout ce qui pouvait être la culture du jeu, avec ce qu'avait monté Alain Ball et la copère de jeu, avec la musique qu'on pouvait présenter, des petites choses très originales qu'on reprendra du type déambulatoire dans la ville de Die, qui ne sont pas les rendez-vous habituels qu'on avait vus. Donc, ça a été aussi, pour nous, je peux dire nous, Hugo Frison et moi-même, c'était aussi tester des nouvelles formules. Et moi, je veux mettre un petit peu, alors je cautionne complètement ce qui vient d'être dit auparavant. Simplement, je voudrais dire que pour moi, la contrainte, elle est toujours facteur de création. C'est-à-dire que là, on se retrouve effectivement dans un contexte qui dure, un contexte qui, sur le plan de l'artistique et de la culture, est des plus contraignants. On n'a pas accès même à l'école de musique, et je complète exactement ce que Olivier vient d'exprimer pour l'espace social, par le fait que les cours de l'école de musique sont un casse-tête perpétuel, à savoir les mineurs seulement, mais pas les adultes en visio, mais les mineurs en visio, ça marche pas. tout est, enfin, on passe notre temps avec Françoise Grève, la directrice, l'équipe des professeurs, à réétudier effectivement ce qu'on peut décrypter des textes et des interprétations qui en sont faites, qui pour nous arrivent par le préfet de la Drôme, et à partir de cela, essayer au maximum de rendre un cours instrumental, on va dire, nécessairement rentable. La visio, si c'était la solution, il y a des tutos sur Internet partout, on n'aurait pas besoin de les professeurs en direct. Donc c'est un casse-tête perpétuel. Mais en même temps, on a toujours cette idée que si on ne peut pas faire selon l'habitude, il va falloir trouver d'autres formes. Donc voilà, cet été, c'était ça. Ça nous a donc donné des pistes qu'on continue à utiliser et qu'on continuera à utiliser en 2021 pour ce qui est des animations estivales. Moi, je peux dire qu'on a aussi la chance, d'avoir et des partenaires culturels. Le théâtre qui continue effectivement à travailler malgré tout, principalement en résidence. Le cinéma, c'est plus compliqué parce que vraiment, là, le cinéma est fermé. Il n'y a pas de situation de repli. Par contre, création. Jean-Pierre Surle est en train de nous faire un hall de toutes les couleurs et c'est magnifique. Donc voilà, ça, c'est une petite consolation. Mais pour le moment, ça s'exprime comme ça. L'école de musique fait ce qu'elle peut pour essayer de maintenir les cours. Le musée, lui, est moins impacté en ce moment parce que c'est sa période de fermeture. Donc pour l'instant, ça va. Mais, et à côté de ça, les partenaires avec qui on travaille sont toujours là. C'est-à-dire pour 21, on a le Festival du Fût au mois de mai, les fêtes romaines à l'Ascension, enfin le Festival du Fût, pardon, en avril, les fêtes romaines au mois de mai avec un repli en juillet, la transhumance avec laquelle on travaille en ce moment, les animations estivales, on va, voilà, jusqu'au mois de septembre. Et moi, c'est quelque chose que j'accompagne au maximum. D'abord parce que s'il n'y a pas de projet, on peut tous déprimés encore plus. Et ce qui est par contre compliqué, ça l'a été évoqué par mes partenaires, c'est que c'est extrêmement chronophage. C'est deux fois plus de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, on prévoit une fête romaine au mois d'Ascension, mais en même temps, on prévoit une fête romaine en repli en juillet. Et la transhumance, on va jusqu'où et à quel moment on devra dire tout le travail qu'on a fait, non, désolé, on jette l'éponge, c'est pas possible. Et je rejoins aussi Olivier sur le fait qu'il n'y a pas de visibilité et c'est insupportable. Donc moi, je ne peux que remercier les porteurs de projets, les partenaires, les associations d'être là, de continuer à être là. Quand on a un groupe de travail autour d'un projet, ils pourraient très bien nous répondre, non mais attendez, c'est pas sérieux, on va pas s'épuiser tous, voilà, ils sont là. Donc pour le moment, tout le monde tient bon.
Pour le tourisme, monsieur Ruit, on parle de Die principalement, mais il y a aussi des villes comme Châtillon, Lucandiois, La Motte-Chalancon.
Oui, bien sûr.
Toutes ces villes qui sont un peu éloignées du centre-ville de Die. Quel a été l'impact aussi parmi ces villages? Et est-ce que vous travaillez également sur la préparation de ce qu'ils organisent habituellement? Par exemple, les arrêts vignes pour Châtillon, le carnaval de Luc ou d'autres festivals?
Oui, on est présent sur bien sûr, on est présent sur Die, on est présent aussi sur Saint-Nazaire-des-Arts, La Motte-Chalancon, Lucandiois, Châtillon-Dioie et Luce-la-Crotte. Nous avons des bureaux d'office de tourisme où à l'intérieur, il y a une présence physique qui donne des renseignements. Voilà, donc on est vraiment présent sur tout le territoire et on est à l'écoute de tout ce qui peut se faire. Voilà. Et la communauté de communes de Dioie est vigilante là-dessus. Il n'y a pas que dit. Hein. Il faut être absolument sur tout le territoire et rassurer souvent avec des mots parce qu'on s'aperçoit que dès qu'il y a de l'éloignement, il y a des choses qui se comprennent mal, qui se disent mal et qui sont voilà, et c'est notre boulot ça c'est le rôle des élus d'être présents dans toutes les communes. Voilà.
Ça laisse entendre quand même que toutes vos préparations à venir impliquent une double préparation, celle en temps normal, si les pandémies cessent ou du moins si les contraintes sont allégées, et aussi celle avec les contraintes renforcées et qui obligent encore plus de sécurisation des événements. Et donc ça, c'est ça qui est chronophage.
Nous, oui, c'est effectivement le cas, puisque la ville de Die étant boursante, c'est vrai qu'elle a l'habitude d'avoir des événements qui rassemblent beaucoup de personnes. Je rappellerai simplement qu'au mois de septembre, fin septembre, on a pu, avec cette espèce de week-end atypique que je trouve très intéressant, qui regroupait la Dromoise, donc sur le plan sportif, la journée patrimoine européenne du patrimoine, qui sont classiques, et puis un festival de rue qui portait l'ouverture de la saison du théâtre. On a eu 3300 personnes dans la ville. Et ça s'est très bien passé avec les conditions sanitaires. Donc après, ça a été impossible à gérer. Mais ces préparations-là, elles se sont faites avec des échanges extrêmement fournis avec la sous-préfecture et la préfecture, de plans, de remarques, de replans, de barrières, de circulation, d'arrêtés, de périmètres. Voilà, donc moi je rejoins exactement ce que dit Jean-Pierre Witt. C'est vrai que dit c'est le bourg-centre parfaite parce que c'est la petite ville, on va dire, du secteur. Mais la difficulté, elle existe exactement pour Châtillon, elle existe exactement pour Luc, dans les mêmes termes. Et moi, je suis d'autant plus amère sur 2020 que, pour revenir sur cette dimension territoriale, on avait vraiment des projets portés par la ville et par le théâtre ou par d'autres porteurs de projets qui, justement, faisaient ce lien entre le dit et les autres endroits du territoire. Et ceux-là n'ont pas pu passer la barre des autorisations parce que compliqué, parce que voilà. Donc c'est ça qui est un petit peu frustrant, enfin un petit peu très frustrant, c'est que je veux dire, l'énergie est là, les projets sont pensés, dit et son territoire, dit et du lien entre les habitants au sens large, puisque c'est une des choses qu'on porte aujourd'hui. Et on est juridiquement, légalement, dans l'impossibilité de le réaliser pleinement. Et ça, c'est assez fatigant. J'avoue que sur le plan du moral à tenir, c'est plus ça qui est compliqué, de même que de simplement rassembler les gens. Moi, je rappelle juste qu'on n'a pas pu rassembler les citoyens dans notre mairie pour les vœux qu'on avait préparés de façon sympathique avec des panneaux, avec des choses pour que les gens discutent. Enfin, voilà, on avait vraiment travaillé avec ça. Et on se retrouve dans une situation où les derniers textes effectivement arrivés nous ont montré que c'était pas possible. Bon, on a pris notre panier, on est allé sur le marché, quoi. Donc, alors ça, par exemple, on va le faire. On est en train d'y travailler. Les élus dans la rue, voilà. Ça va être ça maintenant. Alors, pour revenir au domaine culturel, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les contraintes sanitaires pourront, je pense, développer, alors c'est loin d'être satisfaisant, mais des expressions différentes. Des choses qui se passent, par exemple, dans les vitrines du Diwa, moi, pour moi, c'est tout à fait possible qu'elles se passent aussi dans des lieux de vitrine, à dit, mais à Luc, mais à Châtillon, mais à Luce, etc. Donc, on va peut-être avoir une possibilité d'exprimer des choses sur le territoire de cette manière-là. En attendant, parce qu'on attend que ça se redeviennent dans des conditions beaucoup plus normales, parce que malheureusement et heureusement, l'être humain, c'est un être social, c'est un être d'échange, c'est un être de rassemblement, voilà. Et ça manque cruellement aujourd'hui.
C'était une dans ma question et proposition, justement, c'était où est l'humain dans cette histoire et le contact entre les personnes. Qu'en est-il aujourd'hui avec ces interdictions d'activité de toutes sortes? Est-ce que vous réfléchissez un petit peu et est-ce que vous avez commencé à peut-être conjuguer ou articuler vos compétences à essayer de trouver des solutions?
La plus à même pour, au niveau de l'Office du tourisme pour en parler, c'est forcément Nathalie qui, à l'accueil, gère les problèmes de l'accueil, parce que l'accueil est limité. Mais je laisse Nathalie s'exprimer là-dessus.
Voilà, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, que ce soit par Yves, Olivier ou le président, en fait, je rebondis sur ce qu'a dit Sylvie. C'est vrai que nous... ça a été sans arrêt faire, défaire aussi. En termes de communication, on gère la remontée d'informations sur notre base de données, sur le site internet, sur Facebook. Et effectivement, une manifestation, on rentre les informations, Quelques temps après, on apprend que malheureusement, elle est annulée, reportée. Donc derrière, on essayait aussi d'être complètement, de mettre à jour cette info. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, en fait, dans la fréquentation qu'on a eue, on a eu beaucoup de Français. On avait... La clientèle française était déjà très importante les autres années, mais on avait une répartition, on va dire, 25-85 entre Français et étrangers. Les étrangers ont occupé que 16% de notre fréquentation cette année. Par contre, dans ces Français, il y a eu beaucoup de Rhône-Alpins dans notre public, ce qu'on avait avant, mais là, ça a été d'autant plus prégnant, donc des gens qui venaient de proximité. Beaucoup de résidents secondaires qui sont arrivés très tôt, même dans les périodes de confinement, ils étaient présents. Hein, dans les villages, il y a des maisons qui se sont réouvertes, etc. Et par contre, il y a cette attente, effectivement, de rencontres, d'humains, de manifestations. Nous, par exemple, là, on n'a pas pu sortir notre agenda des festivités, qui même en janvier, habituellement, on en sort un pour... Et là, on ne l'a pas fait parce que, finalement... on s'est posé la question, on a regardé ce qui remontait. Il y avait très peu de choses, finalement. Il y avait les rencontres de l'écologie au quotidien, et puis une autre manifestation, mais tellement peu pour donner envie de voir, de faire. Et les gens, ils avaient cette demande de, quand ils viennent nous voir, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir, où est-ce qu'on peut écouter un concert. Il ne faut pas oublier non plus les grandes difficultés de nos restaurateurs. Certains de nos restaurateurs, donc ils sont fermés. Donc certains ont pu mettre en place de la livraison, de la vente à emporter, mais c'est compliqué aussi, c'est très lourd à gérer. Et toutes on avait aussi des restaurants qui proposaient des concerts. Et on n'a pas eu ça, on en a eu beaucoup moins et cet été, et puis plus du tout là. Donc tout ça, ça fait partie d'un pays à vivre et ça, ça manque, je pense. Donc, effectivement, on a eu beaucoup de monde dans tout ce qui était randonnée, balade, mais c'est l'après, le soir, ou même la journée, visiter quelque chose, voir un spectacle. Ben, ça, je pense que ça a manqué à tout le monde, et je pense qu'il y a une vraie appétence, et les gens, ils attendent ça, et malheureusement, on ne peut pas leur fournir. En tout cas, nous, au niveau d'office, ça a été aussi de l'adaptation permanente et, comme l'a dit Olivier, hein, du stress aussi, parce qu'on fait, on défait, on n'a pas les textes. Le décret nous dit complètement l'inverse de ce qu'on a pu comprendre, interpréter. On s'est tapé des tas de visios, des webinaires pour essayer de comprendre juridiquement à quoi on allait être mangé et pas mangé. Et effectivement, mais en tout cas, moi, au niveau d'équipe... Elles sont le plus réactives possible et ça, c'est bien. Mais c'est en fait, voilà, sur le site internet, on fait, on défait. Alors, c'est ouvert, pas fermé, c'est fermé. Hop, on rappelle, on fait de la veille, on rappelle les organisateurs pour être sûr. Est-ce que c'est maintenu, pas maintenu? C'est vraiment chronophage aussi, c'est vrai.
Toute organisation nécessite une déclaration à la préfecture?
Ah bah, si on est sur le domaine public, évidemment. Sur le domaine, dans les salles, dans les ERP, les décrets sont très clairs maintenant, au bout. Mais jusqu'à la prochaine fois où il y aura un changement, donc on sait ce qu'on a le droit de faire à l'intérieur ou pas. On sait qu'à l'extérieur, on a un certain nombre de déclarations à faire. Mais encore une fois, moi je reviens sur l'extrême difficulté qu'on a à se projeter, sur la fatigue que ça nous amène, et sur, au bout d'un an, là, revenir sur cette idée du bon sens sanitaire, et qu'à un moment, on a un pays où on est 67 millions d'habitants, où l'épidémie... Elle est pas, elle a pas le même niveau selon les départements. J'allais dire, même à l'intérieur des départements, elle pèse pas de la même manière. En ce moment, on sait qu'on est un département qui est assez touché. Ça me semble normal dans ce cadre-là que les restrictions soient plus strictes. Mais quand ça se détend au niveau des admissions à l'hôpital, au niveau des contaminations et autres, il faudrait qu'on laisse aussi la possibilité au bon sens des élus, des gens qui travaillent sur le terrain, de ramener un peu de la vie. Parce que ce qu'on vit, nous, habituellement, Dans le Diwa, l'hiver, où pour moi, c'est une période qui est difficile pour les habitants parce qu'on n'a pas l'offre culturelle foisonnante qu'on a l'été, qu'on a besoin de ce carburant-là, nous, en tant qu'habitants au long terme du territoire, pour pouvoir être dans les meilleures conditions possibles pour accueillir les touristes qui font vivre une grande partie des habitants sur la saison et les ailes de saison. Et là, la crise sanitaire, elle est venue renforcer ça, le fait que c'est compliqué de vivre dans nos régions rurales où on a une offre de services culturels et des lieux de rencontre qui sont plus difficiles que ce qu'on peut avoir dans les agglomérations, qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ce soutien pour continuer, qu'au bout d'un an, tout le monde est fatigué. Et ce n'est pas très étonnant qu'il y ait moins de sollicitations, ou en tout cas, qu'il y ait moins d'offres qui soient arrivées jusqu'à l'Office du tourisme en janvier, puisque nos collègues qui bossent dans la culture, ils n'en peuvent plus aussi de faire et défaire. Et donc, on s'adapte. Voilà. Nous, on ne peut pas accueillir le public adulte. Ça libère des salles. Eh bien, on accueille des résidences, puisque ça, c'est autorisé dans les décrets. Eh bien, accueillons des résidences et espérons que ces résidences puissent voir le jour et puissent venir nourrir nos habitants dans les mois qui viennent. Mais de la même manière, actuellement, depuis la rentrée là, de janvier, nous, on est en grande discussion au sein de l'équipe pour se dire est-ce qu'on n'arrête pas les frais ? Enfin, est-ce qu'on ne se dit pas, la saison, notamment pour nos activités socioculturelles pour les adultes, est-ce qu'il n'est pas temps de se dire, on arrête pour cette année, on rembourse les personnes, on discute avec nos animateurs pour voir la meilleure manière qu'ils puissent pouvoir nous reproposer des activités l'année prochaine, mais là, à faire et défaire, nos publics sont déstabilisés, nos animateurs sont déstabilisés. Nous, en termes de structure, on ne peut pas aller mobiliser l'aide de l'État sur le chômage partiel parce qu'on essaie sans cesse de faire des choses, mais qui, au final, n'ont pas lieu. Donc, moi, j'ai des collègues qui travaillent pour rien en ce moment. Et la perte de sens, des fois, on a déjà de la perte de sens dans certaines choses qu'on fait. La perte de sens, elle est terrible pour un salarié. Donc, en fait, il faut aussi prendre des décisions qui ne sont pas forcément faciles à un moment, mais qui nous permettront peut-être de mieux rebondir après.
Oui, moi, je voulais compléter ce que dit Olivier par un facteur qu'on entend peu, c'est la prise de risque des gens qui continuent, malgré tout, à vouloir faire des choses aujourd'hui. Pour les raisons qu'on a évoquées. Et c'est réel, ça. C'est-à-dire que ce soit sur le plan humain, la fatigue psychologique, la fatigue nerveuse, le fait qu'on passe un temps inutile, et ça, on en est tous bien conscients, que ce temps passé à monter quelque chose qu'on détricote derrière, c'est inutile. Mais c'est un choix pour l'instant. Et moi, je suis très, très vigilante au fait que ce choix-là, pour l'instant, il est encore fort. On l'accompagne tous. Il y a une belle solidarité, il faut le dire aussi. Il y a une belle solidarité entre les différents, entre tous. Hein. Je reprends le cas de Jean-Pierre au Pestel, qui finissait par devenir fou. Il peint son hall. Il n'y a pas eu une heure où quelqu'un n'est pas passé pour lui dire « tu es là, comment tu vas ?» etc. Donc, il y a une belle solidarité. Mais c'est fragile. Et moi, je rejoins aussi Olivier sur le fait que les gens qui font le choix de maintenir un emploi des gens qui travaillent plutôt que de fermer en disant « on jette l'éponge », ça rassemble aussi tout l'autre côté de la balance, c'est-à-dire accepter qu'il y a une vraie fatigue humaine, il y a un risque d'épuisement en fait. Donc il faut être vraiment vigilant à cela, et je le suis particulièrement. Après, une petite lueur à laquelle je me raccroche, c'est qu'à travers les projets qui nous arrivent en mairie, cette solidarité, elle va aussi dans le sens de ne pas laisser de côté des gens qui seraient de côté. Moi, je vois que là, cette année, sur les propositions d'activités qu'on peut accompagner à travers les subventions, il y a vraiment des choses qui sont pensées pour les personnes âgées toutes seules chez elles, et pas seulement les gens qui sont en EHPAD, parce qu'eux, on y pense systématiquement. Des habitants qui seraient isolés simplement parce qu'ils ne peuvent plus aller jouer aux cartes parce que c'est interdit interdit, ils ne peuvent plus aller faire leur jeu de l'esprit parce que c'est interdit. Enfin voilà, donc c'est ce que je voulais dire quand je parlais de créativité par rapport à la contrainte. Je pense que là, il va falloir essayer de trouver des solutions. Moi, j'en ai plein des idées. Hein. Je veux dire, ce que la coopère de jeu et l'As de trèfle et Alain Ball ont montré cet été une seule fois, puisqu'après, c'était trop lourd pour eux au niveau des contraintes sanitaires, c'est mettre des tables dans la rue avec des jeux à disposition, avec le gel, avec voilà, un petit encadrement. Ça a très bien fonctionné et ça, faut pas l'oublier. Donc voilà, aller jouer dans les petites rues où personne ne va jamais jouer, comme on l'a fait cet été, et commencer les concerts systématiquement dans la cour de l'hôpital, devant les balcons de l'EHPAD, c'est voilà, je pense que ça aura au moins cet avantage de faire en sorte que on n'oubliera pas les gens qui sont d'habitude un petit peu de côté, parce que voilà, la fête, c'est les gens qui bougent, c'est les gens qui peuvent rester debout jusqu'à 3 heures du matin, et c'est pas forcément les gens qui sont chez eux tout seuls.
Moi, je compléterais bien sur une petite chose sur 30 secondes. Je reviens à ce gimmick, enfin à cette idée sans cesse du bon sens sanitaire et de ce qu'on voit qui est autorisé et ce que nous, on ne nous autorise pas. Aujourd'hui, quand j'entends Sylvie et que je croise Jean-Pierre et que le cinéma est fermé, alors qu'on pourrait avoir une place sur 3, une place sur 4,
c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait.
Voilà, qui serait ouvert et que donc le cinéma est fermé, le théâtre est fermé. Et on voit des gens dans les agglomérations s'entasser dans les grandes surfaces. On a, dans le Dauphiné, il y a deux jours, eu la photo d'un bus, qui a été un bus de remplacement qui a pris les passagers d'un train qui devait faire Valence-Briançon. Et ce bus, il y avait 55 personnes pendant 3h30 dans un bus. Il y a un moment, c'est ça aussi qui commence à épuiser les habitants, les artistes, les animateurs, nous-mêmes qui sommes à essayer de faire le mieux possible. C'est qu'on nous interdit de faire certaines activités, même en plein air ou alors avec des grandes distances sociales. Et de l'autre côté, au niveau économique, on va autoriser IKEA et d'autres très grandes surfaces, et puis les transports en commun, les RER et autres, d'être bondés. Et voilà, ça n'a aucun sens. Et quand ça n'a aucun sens, et bien en fait, on perd le sens. Et c'est là que ça peut commencer à être compliqué dans les relations qu'on a tous les uns aux autres, quoi.
Monsieur Rouy, tout à l'heure, vous parliez d'une nouvelle forme de tourisme qui s'est établie déjà l'année dernière. Est-ce qu'on peut la décrire, ce nouvel aspect de tourisme?
Oui, Nathalie l'a précisé tout à l'heure. Donc, on s'aperçoit qu'on a eu en 2020 un tourisme de proximité. Voilà, moins de touristes européens et beaucoup plus des voisins départementaux, des départements voisins. Et je reviens sur la curiosité de ces personnes-là. Ils veulent vraiment tout voir, tout connaître. Ils veulent se renseigner. Et puis bon, on a un avantage, c'est qu'on a un territoire qui est très nature, très vaste. Donc, ils sont demandeurs aussi de randonnées, de sentiers. Sur Glandas, c'était l'autoroute. Hein, juillet-août, c'était une autoroute. Voilà. On a quand même des avantages sérieux à ce niveau-là. Voilà. Et pour revenir à ce que disaient mes collègues tout à l'heure, moi, je vois Karukubo, petite commune, 280 habitants. Ce qui manque, c'est les moments de convivialité. Il y a une brocante qui avait lieu, elle a été annulée. Il y a des repas qui sont organisés par le comité des fêtes, bien sûr, ça a été annulé. Les chasseurs, ils ne peuvent pas se réunir correctement, ils restent à l'extérieur. Voilà, et tous les jours, on subit intellectuellement des choses qui sont négatives pour l'humain. Voilà. Et il faut rester vigilant, il ne faut surtout pas prendre de risques, bien sûr, mais il faut qu'on soit tous solidaires et qu'on soit tous pas s'observer, mais se surveiller quand même, quoi. Parce que des fois, on le voit, hein, il y a certaines personnes qui peuvent exploser d'un coup, on ne comprend pas pourquoi, mais bien sûr, il faut les pardonner. Hein, voilà. Mais pour revenir au tourisme d'avenir, je pense qu'on a, nous, on a le Diois, notre territoire, on a énormément de cartes à jouer, mais il va pas falloir qu'on se trompe non plus. Il ne va pas falloir qu'on s'éparpille de partout, qu'on fasse ce qu'on sait faire, je l'ai dit tout à l'heure, l'accueil. Commencez le faire très chaleureusement et très simplement.
C'est juste pour rebondir et préciser par rapport à ce qu'a dit Jean-Pierre. Cet été, on a remarqué, nous en tout cas, qu'il y avait une nouvelle clientèle qui n'était jamais venue dans le Diwa, certes de proximité, une nouvelle clientèle qui n'avait jamais pratiqué la montagne. Et ça ne va pas sans problème, parce que effectivement, c'est des gens qui ne connaissent pas la montagne, c'est dangereux, même si on a des massifs accessibles, justement. C'est parce qu'ils sont très accessibles qu'ils perçoivent parfois pas les dangers qui peuvent être liés. C'est-à-dire qu'on a eu des demandes de pratiques de bivouac, par exemple, avec des gens qui n'étaient pas du tout équipés, qui n'avaient jamais mis un pied en montagne, avec des jeunes enfants, limite ils montaient pas en tongs, sans eau. Donc ça a été effectivement... la pratique montagne, et puis effectivement, il y a des questions de surfréquentation sur certains sites, hein, que ce soit la réserve naturelle, que ce soit même au Vallon de Combeau, où là, on se pose nous aussi des questions, on s'interroge, que ce soit les élus et techniciens, sur. Parce qu'on se dit cet été, ça va être la même chose, quelles solutions on peut apporter à ça. Et je crois que Jean-Pierre, il y a aussi. Toutes les questions de la mobilité et des camping-cars et des vannes, et voilà, qui a été très prégnant cet été. Oui. Problématique de la Drôme, de l'eau, que la Drôme, hein, que ce soit le Bèze, etc., où il y a une surfréquentation des lieux de baignade aussi, même si nous, justement, au niveau de l'office de tourisme, on ne communiquait plus sur la baignade, etc. Donc les gens, quand ils nous demandaient des lieux de baignade, on citait la Drôme, mais sans... ou à la vallée de la Roanne, mais sans dire où exactement, etc. Mais il y a eu des publications que nous, on ne maîtrise pas, qui ont pu être faites au niveau du département ou ailleurs, qui incitaient à aller à la baignade. Et c'est pas sans créer, au niveau local, après, des soucis de parking, des soucis de respect de l'environnement, des gestions des déchets, etc.
D'incivilité,
oui. D'incivilité, hein, tu as raison.
Et puis les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui... Il n'y a pas que la communication institutionnelle.
Oui. Et qu'en est-il des campings aussi, qui sont sur l'ensemble du territoire? Ils ont eu des contraintes strictes aussi par rapport à l'accueil du public et justement d'une concentration de population sur des espaces un peu réduits. Oui. Comment ça s'est passé, par exemple, pour l'été dernier?
L'été dernier, ils ont bien géré. Le souci qu'on a avec les campings, les gros hébergeurs, c'est qu'ils se sont aperçus en 2020 qu'ils ont réduit leur temps d'ouverture, et les ailes de saison s'étaient fermées. Ils ont réduit leur temps d'ouverture concentré sur le 15 juin, fin septembre. Et au niveau retour, au niveau financier, ils ont guère perdu parce qu'ils ont embauché moins. Donc ça, le raisonnement qu'ils tiennent aujourd'hui, on les côtoie, c'est, ils sont en train de nous dire, ben, finalement, pourquoi ouvrir plus? Et nous, ça, on ne peut pas l'entendre, ça. Ça, il va falloir qu'on leur dise, écoutez, on vous aime bien, mais vous faites partie de l'outil de travail qu'il faut ouvrir normalement. Voilà.
Oui, et puis les habitants du territoire ont besoin d'avoir des emplois. Donc, sur cette question-là, c'est une solidarité que tout le monde doit avoir. Mais il y a 2-3 ans, on avait discuté à un certain nombre de partenaires sur cette idée de un peu de fonds de dotation territoriale ou d'abonnement au territoire. On a plein de personnes qui adorent le Diwa, qui viennent de manière régulière, qui ont des résidences secondaires, qui viennent en tourisme, qui ont des résidences de famille. Et même s'ils n'habitent plus le Diwa, reviennent et sont attachés au territoire. Et on se disait, et si pour financer... les activités justement qui nous permettent à nous, habitants, toute l'année, d'avoir accès à plus de culture, à des spectacles, à de la possibilité d'avoir du lien. Si on proposait un abonnement au territoire, une sorte de somme pour 5 euros, 10 euros, X euros, abonnez-vous au Diwa, on vous enverra une newsletter tous les mois, vous aurez des réductions quand vous venez... pour venir à des spectacles. Et en tout cas, grâce à ça, vous soutiendrez en fait les habitants qui sont là au long cours et qui vous accueillent bien entre le mois de juin et le mois d'octobre, mais qui ont besoin de vivre et d'avoir de l'accès à de la culture et à des moments chaleureux et de rencontres tout le reste de l'année.
Cette pandémie amène quand même une notion, c'est celle de la concertation, qui semble quand même être absente à certains niveaux. Justement, cette concertation, je parle vis-à-vis de l'État, des exécutifs actuels, avec, par le biais de ces préfets, d'imposer des contraintes qui dépassent un peu l'entendement parfois. Je voulais savoir, est-ce que vous, au niveau local, vous préparez aussi à une concertation avec la population, de manière à préparer aussi ce qui serait l'avenir du tourisme?
Nous, sur la ville de Die, c'était un de nos leitmotifs. Comme je l'ai dit dans une émission précédente ici, on a tout dans les cartons, tout est prêt.
Je voulais savoir, est-ce qu'il y a toujours une demande conséquente d'une population, d'acteurs aussi locaux, pour essayer de construire de nouvelles choses?
Alors, on le fait actuellement, on le fait à travers des groupes de travail qui se situent bien sûr en mairie, puisqu'on peut recevoir avec des jauges qui ont été estimées, qui sont, on sait où on met les pieds. Donc oui, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas à la hauteur de ce qu'on veut faire, bien évidemment. Donc on en est à travailler, moi j'emploierais un mot un peu particulier, on va dire par collège, c'est-à-dire que qu'on a des gens qui travaillent en ce moment plus facilement autour de la biodiversité, l'installation des composts, le travail autour des arbres, etc. Parce que de fait, ce sont des activités d'extérieur qu'on peut faire malgré tout, avec bien sûr toutes les normes sanitaires en vigueur, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Après, sur le plan qui m'importune moi, on a toujours en tête l'idée de concertation large de la population sur un projet global, culturel, au moins pour la ville et même autour. Ça, on est en train de travailler sur des questionnaires. Alors, c'est loin d'être satisfaisant, mais comment faire pour atteindre au maximum les gens? Alors, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect de ce que j'ai appelé les collèges, c'est-à-dire on peut provoquer des réunions à entre 15 et 20 personnes, gros maximum, c'est ce qu'on peut accueillir en mairie, sur ceux qui travaillent autour de la musique et qui ont des idées pour la musique, ceux qui ont des idées pour des animations, enfin voilà. Mais c'est loin d'être à hauteur de ce qui pourrait être très, très productif, très créatif, très intéressant. Et on sait toujours que quand on passe par le papier, comme quand on passe par l'Internet, on perd des gens tout le temps. Alors que quand il y a une réunion, comme je l'ai dit, si on va dans la rue, qu'on va vers les gens, qu'on explique, celui qui décide de ne pas venir, il décide de ne pas venir. Mais au moins, il a eu l'information. Or, même dans les boîtes aux lettres, un questionnaire boîte aux lettres, on le fait. Moi, mes collègues sur la voirie l'ont fait pour l'avenue du Texas. Il y a eu un questionnaire qui a été mis dans toutes les boîtes aux lettres. Et on travaille à partir de ça. Mais c'est quand même, je dirais, une toute petite chose par rapport à l'ampleur de ce qu'on voulait développer. Et dès qu'on peut rassembler les gens, on espère que ça va aller mieux avec le beau temps, le printemps, peut-être l'impact des vaccins, si on peut dire ça, on y va, c'est prêt. Mais là, actuellement, on est dans l'impossibilité matérielle, physique, de faire ce qu'on a prévu.
Nous, au niveau de l'Office de tourisme, on est aussi à l'écoute, et ça, c'est important, de nos partenaires, des socioprofessionnels du tourisme, des acteurs du territoire, et aussi à l'écoute des demandes. Donc nous, on a identifié un manque qui était sur la réalisation de visites guidées, en fait, que ce soit sur la ville de Die, mais aussi de Châtillon. Et donc, on est en train d'y réfléchir en lien avec le musée, en lien avec la commune libre de Saint-Marcel. Et puis, on a peut-être une personne qui a sa carte de guide qui vient de s'installer sur le Diwa. Donc ça, c'est aussi pour permettre de répondre, certes, à des demandes d'offres de groupes qui veulent venir à la journée, mais aussi qui sera proposé, si on arrive à le mener au bout, cet été. Pour nos visiteurs, et quand je dis visiteurs, c'est tout le monde. C'est-à-dire que c'est à la fois les locaux. De mémoire, je crois que sur notre clientèle Rhône-Alpine, c'est 45% de notre fréquentation. Sur cette fréquentation, il y a 45%, il y a 43% de Drômois Et dans les Dromois, il y a 25% de locaux, de personnes du Diwa qui ont poussé la porte de l'office de tourisme ou qui nous ont téléphoné. Ou, voilà. Donc ça veut dire aussi que tout ce qu'on peut nous mettre aussi en place faire le relais de ce qui est fait sur le territoire en termes d'activités, de loisirs ou de culture, sert aussi à cette population locale et aux résidents secondaires. Donc voilà, on essaie de répondre à ça.
Oui, donc en 2020, on s'est aperçu sur le Diwa, côté immobilier, que les maisons, elles se vendaient. Hein. Il y avait un parc immobilier qui était certes important avant la crise, là, et pendant la crise, et actuellement, le marché de la vente d'appartements ou de maisons, et ça marche très très bien. Et moi, ce qui me fait souci, c'est que les prix s'envolent. Et quid des locaux, quoi. Les locaux, comment on va faire pour pouvoir accéder à la propriété, voilà. Et puis, on parle beaucoup du tourisme. Donc, il faudrait qu'on... Moi, j'ai une pensée pour nos centres de vacances qui sont vraiment touchés. Donc, dans le cadre de la communauté de communes du Diwa, avec la vice-présidente Isabelle, mairesse de Die, Isabelle Bizoire, on est en train d'essayer de leur apporter peut-être des solutions, mais aujourd'hui, on est un peu démunis. Voilà, mais... Donc, il y a... Certes, j'ai dit en ouverture que le tourisme, on n'avait pas trop à se plaindre, mais il y en a qui souffrent, hein, les restaurateurs, les hôteliers, les bars qui sont fermés. On ne sait pas ce que ça va donner du tout, quoi.
Pour finir, parce que l'heure se termine, en fait, est-ce qu'on pourrait envisager aussi la réappropriation de l'extérieur, du territoire ou de la nature pour pratiquer des activités culturelles? Est-ce qu'on pourrait penser à un théâtre de plein air, par exemple, ou un cinéma de plein air qui permettrait justement un plus grand accueil? Et à savoir, quelles sont les contraintes pour des activités extérieures et quelles sont les jauges limites actuellement? On est un peu dans le doute aussi là-dessus.
Il me semble que c'est 10 sur l'espace public, y compris la montagne, est considérée comme un espace public. Ouais, donc, même si vous êtes 10 sur le plateau du Vercors, c'est la jauge. Donc, c'est un accompagnateur.
10 par groupe.
Par groupe, donc voilà. C'est 9.
Ils peuvent quand même être à distance de 100 mètres. Il peut y avoir deux groupes de 10, heureusement.
Voilà. Mais c'est un accompagnateur plus 9 personnes. Ouais. Ce qui n'est pas du tout dans leur jauge habituelle, même de rentabilité de l'activité. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est 10 quoi, sur l'espace public.
Voilà, on verra au printemps de toute façon comment ça se passera et le fait de... on vérifiera sur cette saison 2 du Covid s'il y a effectivement une incidence saisonnière, s'il y a une incidence et un mieux par rapport à la couverture vaccinale. Ça va peut-être détendre comme ça a pu se détendre sur juillet et août l'année dernière, un certain nombre de choses. Mais oui, maintenant, il faut l'avoir en tâche de fond, en fait. Cette idée que peut-être que de juin à septembre, on sera un peu plus libre et que si ça se repasse comme cette année, on aura à avoir toujours en tête comment on gère les contraintes sanitaires sur le reste de l'année, ce qui va nous impacter, et je le redis, ce qui est une difficulté complémentaire pour les personnes qui habitent ici, sur ce non-accès à des activités culturelles et de loisirs. Et là, je rebondis vraiment sur la dernière intervention par rapport au logement, sur le fait qu'on le voit de partout. Ça a d'abord été dans les parcs autour et dans les parcs nationaux, régionaux, enfin dans tous les espaces protégés. Et aujourd'hui, ça vient, pour le coup, chez nous, ça descend du Vercors et ça arrive ici. Cette pression sur l'immobilier qui fait qu'on a une partie de notre population. Il faut se rappeler quand même, et là, je prends ma casquette de directeur du centre social, qu'on est sur une population qui est plus paupérisée qu'ailleurs dans la Drôme, que la Drôme n'est pas un département qui est riche par rapport à Rhône-Alpes et au niveau français, et que cette gentrification en fait, de notre milieu rural, cette envolée des prix, fait qu'on a une partie des habitants qui ne peuvent plus se loger, et quand ils trouvent des logements à un prix décent, ces logements sont souvent des passoires énergétiques. Et donc là, pour le coup, il y a effectivement un travail global de tous les élus, les responsables, de mettre des aides importantes pour que les logements vides surdits puissent re-rentrer dans le marché immobilier, puissent être rénovés, puissent que les jeunes qui veulent venir habiter ce territoire et continuer à le rendre dynamique puissent se loger et que ça soit pas simplement les gens qui ont de gros moyens et qui viennent des agglomérations en ayant vendu des biens de manière assez chère qui puissent venir acheter ici.
Mais c'est, Olivier, c'est prévu dans la Comcom du Diois. Le conseil communautaire a validé cette action-là qui va se faire dans tout ce qui est rénovation énergétique. Et ça va être très, très intéressant et ça va être porteur donc, de chantiers et bien sûr de main-d'œuvre pour tout le Diois.
Je vous remercie tous, donc Monsieur Jean-Pierre Ruy, Madame Nathalie Guéraud, Olivier Royer et Madame Sylvie Girard d'être venus nous parler un peu de ce qui se passe dans le Diois sous cette contrainte du Covid. Et je vous remercie bien et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.